Donc le catéchisme commence toujours par l'existence de Dieu, ensuite la création, ensuite la première création invisible, invisibilium, c'est les anges, les purs esprits, le fait que Dieu soit Trinité, on peut l'aborder à ce moment-là, mais on aborde la nature humaine, qui est le fruit de cette création matérielle et spirituelle, le monde angélique et le monde matériel créé, animal, qui sont unis dans la nature humaine, le péché originel, c'est-à-dire Lucifer, qui est un séraphin, qui est jaloux de l'homme. L'épreuve des anges serait l'incarnation, une vision anticipée de l'incarnation, donc extrême jalousie de la part de Lucifer, qui avait déjà voulu être Dieu à la place de Dieu, et qui donc se lève contre lui et pousse l'homme à s'écarter de Dieu. Le péché originel, c'est « vous serez comme des dieux » et on l'accepte. Se couper de Dieu, c'est mourir, et on aurait dû physiquement mourir. C'est-à-dire que ça peut sembler un peu dur, mais à mon avis, on ne peut pas comprendre l'histoire humaine sans comprendre que nous n'aurions pas dû exister, parce que Adam aurait dû mourir tout de suite et Ève aussi. Nous ne serions pas là pour en parler. Et donc, si le Christ meurt, c'est à cause de ça. Il meurt à la place d'Adam et d'Ève. C'est ça la croix, hein. La croix, c'est mourir à la place d'Adam et Ève. Et mourir à la place d'Adam et Ève, c'est mourir à notre place aussi, puisque nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Et c'est pour ça que le monogénisme est un dogme. C'est-à-dire que toutes les différences corporelles que nous avons entre peuples, avec les hasards historiques et, comment dire, et génétiques de répartition de notre ADN et des acides aminés, franchement, c'est secondaire. Par contre, ce qui n'est pas secondaire, c'est la vertu. Et c'est la finesse de civilisation. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pris un peuple pour lui donner de nombreuses grâces pour qu'il reste fidèle à la foi et qu'il puisse transmettre à un moment donné cette foi. Quel a été ce moment? Eh bien, ça a été le moment où l'Empire romain avait, par vertu naturelle, une certaine finesse et surtout une grande extension d'avoir conquis le monde connu, d'y avoir imposé une langue, qui était d'ailleurs le grec vulgaire et puis le latin, pour la propagation de la bonne nouvelle à toutes les nations. Ensuite, eh bien, les missions à travers les siècles, pour parvenir à ce moment où le monde entier serait évangélisé, et nous y sommes. Et maintenant, nous n'attendons plus que le retour du Christ, puisque l'évangile a été annoncé à toutes les nations, ce qui est une condition de la fin des temps d'ailleurs. Et maintenant, si vous voulez, on ne peut pas continuer cette évangélisation et cette bonne nouvelle pour les générations qui apparaissent. Et si nous avons des difficultés avec certains peuples, comme les païens chinois, qui sont, qui ont perdu même des traditions spirituelles et animistes presque, mais au sens noble du terme, à cause du communisme, qui ont combattu des traditions spirituelles assez fortes dans le peuple chinois, mais ils restaient quand même païens, c'est-à-dire que assez fatalistes aussi, comme dans le bouddhisme aussi, il y a un certain fatalisme. Tout cela, on voit bien que nous avons encore du travail et un évangile à donner. Et cet évangile, il est surtout fondé justement sur l'incarnation et sur la venue de Dieu sur terre. Donc quand toutes les promesses et toutes les prophéties du peuple juif ont été accomplies en la personne du Christ, La mission des croyants, c'est de dire à tous les peuples du monde entier que Dieu a toujours aimé les hommes, qu'il a préparé les meilleurs moyens pour leur salut, et ce meilleur moyen pour leur salut, transmis par le peuple juif, il nous est donné par la Vierge Marie, mère du Messie juif et du Sauveur du monde. Et nous allons, et c'est la raison pour laquelle il fallait faire de l'histoire sainte, parce qu'on ne peut pas comprendre au moins un cinquième de l'Évangile sans connaître l'histoire sainte. Quand le Christ parle à la Samaritaine, comment voulez-vous qu'on comprenne si on n'a pas un tout petit peu l'idée qu'il y a eu la séparation du royaume du Nord et du royaume du Sud, une sorte d'hérésie, de schisme au sein même de la religion hébraïque, avec un mélange païen et juif, qui fait que les Samaritains sont le symbole, si vous voulez, d'une partie du peuple juif un peu infidèle, avec des rois du Nord, qu'ils appelaient justement Israël en l'honneur de Jacob, mais qui s'opposaient au royaume légitime, qu'on a appelé le royaume de Juda, au Sud, qui avait la capitale légitime et le temple légitime, avec l'Arche d'Alliance, où se trouvaient les preuves de l'action de la force de Dieu dans l'Exode et dans le fait d'avoir sorti le peuple hébreu d'Égypte. Eh bien, les Samaritains, donc, sont un peuple mélangé de juifs et de païens. Donc, quand le Christ va dire, et nous allons le lire petit à petit, que on n'adorera plus ni au mont Garizim, ni qui était en Samarie, qui était donc dans le royaume du Nord, ni à Jérusalem. Imaginez, hein, il dit à la Samaritaine ce qu'il n'a pas dit clairement encore aux Hébreux du Sud, parce que ne pas adorer à Jérusalem, c'est un scandale. Mais justement, le scandale, ça va être de dire détruisez le temple. Le temple, c'est pas possible. Le temple, c'est la marque de la présence de Dieu. Mais oui, mais ils n'ont plus l'Arche d'Alliance depuis 500 ans. Jérémie l'a caché. Et quand les Romains vont arriver en l'an 70, ils vont trouver le Saint des Saints vide. Hein, c'est ce Dieu invisible, ce Dieu, le vrai Dieu. Pas une invention des hommes. Et donc tout cela nous fait bien réfléchir. Et sur l'histoire sainte, ce que Dieu a fait à travers les siècles. Et cette histoire sainte a été communiquée à tous les peuples du monde. Vous voyez, actuellement, les évangéliques protestants et témoins de Jéhovah, qui ne sont même pas protestants, hein, ils nient la divinité du Christ, sont des instruments, peut-être un peu quand même de la providence, même s'il y a un danger à recevoir l'évangile par l'hérésie, par l'erreur, par des erreurs. Il n'empêche que, voyez-vous, encore maintenant, par ce genre d'évangélique ou autre, dans des pays musulmans, on parle du Christ comme le sauveur du monde. Alors que les catholiques, eux, ils sont là, ah mais non, on va discuter, tout ça, l'imam, il est très gentil, tout ça, on va prendre le thé avec lui. Non, les évangéliques, eux, ils vont franco, ils disent non, Mahomet n'était pas un prophète, il nie le Christ, donc... C'est quelqu'un qui a fait fortune dans la guerre qu'il a faite. Donc c'est du rentre-dedans, hein. Si on racontait ça à nos réunions petit four du dialogue interreligieux, je peux vous assurer que ça irait pas très bien. Mais à un moment donné, il faut discuter sérieusement. Eh bien, après l'histoire sainte, il nous faut donc, pas à pas, suivre le Christ. Puisqu'il est à la fois, Dieu et homme, et que toute la morale catholique qu'on lit dans les catéchismes écrits par le magistère pontifical, eh bien, nous allons faire cette morale, cette partie morale, à partir de l'Évangile, puisque tout y sera, et à tel ou tel point, je le développerai lorsqu'on tombera dessus. Donc, À partir de quoi nous faisons ça? À partir d'une petite merveille qui n'a jamais été égalée, qui est le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les quatre évangiles en un seul, par le chanoine Alfred Weber. À l'époque, ça avait été édité à des centaines de milliers d'exemplaires. Vous voyez. Et c'est une réimpression, mais il date en fait... Il y avait le cardinal Méry Delval, qui était le secrétaire d'État de Saint-Pie-X, qui en 1904 avait loué ce travail qu'on peut appeler de concordance entre les quatre évangiles, qui va nous faire non pas passer d'un évangile à l'autre, mais de le lire en continuité. Alors il y a une introduction qui est excellente, qui est un véritable remède à toute exégèse moderne, hein, qui serait horrifié de lire les pages d'introduction de ici. Alors vous avez l'affirmation de l'inspiration des Écritures, de la date des évangiles, qui est une date qui est très très tôt, hein. Dès le début, bien sûr, ils ont été écrits très vite, dans les années 50, 70, et Saint Jean va écrire son évangile après l'Apocalypse. L'Apocalypse est une vision des années 70 pour Saint Jean, et il va écrire l'évangile dans les années 90. Et c'est pour ça que, connaissant les précédents évangiles qui sont très chronologiques, lui se libère un peu plus de la chronologie et va révéler des points qui vont aller contre les premières hérésies qui nient la divinité du Christ. C'est pour ça que dans l'évangile de Saint Jean, il y a une grande insistance sur la divinité du Christ. Voilà. Alors, donc je vous laisserai lire cette introduction, qui est une pure merveille, très très belle, très forte, très fière, voilà, du catholicisme en cristal. Et donc ensuite vous avez cet avant-propos qui est délicieux également, voilà, et nous allons à la page 41. Et vous allez vous rappeler de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'année sur l'existence de Dieu, du Père, qui se dit, qui s'exprime, qui parle, sur le Fils, sur le fait justement que c'est la révélation d'Israël. Tout va vous être dit de manière extraordinaire. Donc lorsqu'on commence les évangiles, il faut commencer par Saint Jean. Et en fait, voyez-vous, comme le chanoine Weber a tout mis de manière chronologique en prenant Saint Jean et en le mettant dans la chronologie de Saint Matthieu, qui est témoin oculaire, comme Saint Jean, de Saint Marc, qui est le disciple de Saint Pierre et qui a écrit l'évangile de Saint Pierre, la prédication de Saint Pierre à Rome, Saint Marc y assiste. Et lorsque les Romains vont demander à Saint-Marc de la mettre par écrit, il va le mettre par écrit. Sur la façade de l'église Saint-Pierre de Chaillot, vous avez Saint-Marc qui est accroupi dans un coin. Il y a toute la vie de Saint-Pierre qui est sculptée sur la façade de Saint-Pierre de Chaillot, métro Alma Marceau, avenue Marceau. Et à un moment donné, vous avez Saint-Pierre qui prêche de sa chaise, de sa cathèdre, c'est un fauteuil, une cathèdre, hein. Et au fond de la pièce où vous avez des gens qui écoutent, vous avez Saint Marc accroupi par terre, avec au-dessus de sa tête Saint Marc, et sur la tablette Jesus Dixit. Il a déjà gravé Jesus Dixit, et sur la dictée de Saint Pierre en fait. Ensuite vous avez Saint Luc, lui qui est un disciple, et qui est un lettré, il est docteur. Et donc c'est vrai que c'est le plus bel évangile au point de vue du style. Il a un très beau style, il est très lettré, et il paraît, lorsque vous comprenez bien le grec biblique, c'est délicieux de lire Saint Luc. Mais voilà. Mais Saint Luc était probablement un disciple. En tout cas, il a reçu aussi, l'évangile. enfin les souvenirs de la Vierge Marie. Saint Luc était aussi peignet, et on attribue à Saint Luc deux ou trois toiles de la Vierge Marie. Bien sûr, les exégètes et les machins disent que c'est faux, n'est-ce pas? Et donc, alors que je crois, sauf erreur de ma part et surnaturalisme mystique, je crois que Sainte Bernadette ou Sainte Catherine Labouré, mais Sainte Bernadette, dans une icône de Saint Luc, juste attribuée à Saint Luc, dans ses, elle disait que c'était le visage de Marie qu'elle avait vu. Et d'ailleurs, Saint Luc, donc ensuite, comme ce sont des peintures du 1er siècle, et que nous n'avions pas le sens de la conservation comme maintenant, c'est comme pour le Sueur de Turin, lorsqu'il y avait des parties qui ont été brûlées, on a mis du tissu pour remplacer. Et les icônes de Saint-Luc ont été parfois repeintes par-dessus, vous voyez, enfin, quand ça s'abîmait un peu, ils remettaient de la couleur en tout ça, vous voyez. Mais il y en a une à Rome, qui est d'ailleurs tellement rafistolée, tout ça, qu'on ne reconnaît plus trop. Et puis il y en a qui sont des copies de qu'on dit, ce sont des copies de celles qui avaient été faites par Saint Luc. Saint Jean, lui, est témoin oculaire, et bien sûr, mon Dieu, tous ceux qui disent que l'évangéliste n'est pas l'apôtre, si vous voulez, pendant des années, des décennies, des siècles, on a toujours considéré que c'était l'apôtre et l'évangéliste, c'était la même personne. Donc à partir de certaines considérations, on tire une phrase de Saint Jérôme, le prêtre Jean, tout ça, enfin c'est... Tout ça, c'est un temps perdu, et d'ailleurs, c'est de la confusion. Donc, les siècles, Saint Jean, l'apôtre, et Saint Jean, l'évangéliste. D'ailleurs, Saint Jean, l'évangéliste, donne des détails que seul Saint Jean, l'apôtre, pouvait connaître. Donc, rien que cela devrait faire cesser ces discussions récentes et pour remplir des livres et les vendre. Donc, page 41, voyez, voilà, on va commencer par le commencement, c'est le cas de vie. Au commencement était le Verbe. Je vous ai dit, le Verbe, c'est la parole de Dieu. Dieu qui se dit, Dieu qui se pense, Dieu qui réfléchit. Et Dieu qui réfléchit, le miroir de sa substance, dit saint Paul. Vous voyez ? Non, il va y avoir quelqu'un.
Oui.
Voilà. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. C'est impressionnant de dire ça. Alors je ne vais pas m'étaler, hein, je vais aller vite. Était le Verbe, l'imparfait qui est utilisé pour la traduction par rapport au grec. Voilà. C'est un intemporel. Et le Verbe était Dieu. Donc pour tous ceux qui disent « Oh, la divinité du Christ, petit à petit, peut-être que... » Non. Saint Jean, lui, là, pour le coup, il commence direct. Hein. Il est Dieu. Grosse déception, hein, de ceux qui pensaient que Jésus s'était rendu compte qu'il était aimé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, et que... Ou alors ceux qui concèdent que Jésus est Dieu, mais pour un peu égratigner ça, ils disent, mais il s'en est aperçu vers 30 ans ou peut-être vers 12 ans éventuellement, mais ça c'est, alors ce sont les plus conservateurs, mais vers 30 ans ou vers 33 ans ou sur la croix, hein, je sais pas, et encore, voilà, grosse surprise lorsque par lui, toute chose a été faite et rien n'a été fait sans lui. Attention, le Verbe, donc Verbe est créateur. Le Père est créateur, le Verbe est créateur. C'est normal, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul. Donc, ce qui a été était vie en lui. Alors bon, les traductions sont parfois différentes. Et la vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, parmi les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté ou comprise ou saisie. Bon. Un homme dont le nom était Jean fut envoyé de Dieu. Jean, l'apôtre, Jean l'évangéliste, était un disciple de Saint Jean-Baptiste. Donc il donne une place particulière à son premier maître, qui était un grand saint. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Imparfait du subjonctif, sauf erreur de ma part. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint dans son propre domaine, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors les siens, donc ceux qui maladivement poursuivent le peuple juif, vont dire « Ah, mais c'est les juifs, c'est les juifs, c'est les juifs. » Les siens, c'est aussi nous. Voilà. Parce que là, pour le coup, ça fait belle lurette quand même que les Celtes sont, et autres Gaulois sont chrétiens. Hein, donc actuellement, on ne le reçoit pas beaucoup, hein, le Christ. Et ça va faire quand même quelques décennies, voire siècles, que les Africains sont chrétiens. Et lui, il le garde. Eux, ils le gardent. Hein, ce sont les Africains maintenant qui viennent nous évangéliser. Donc, voilà. Enfin, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir, il l'a donné à tous ceux qui croient en son nom. Alors, quand il met en italique le chanoine Weber, c'est qu'il explicite, donc il rajoute. Vous voyez ? Donc, c'est pas dans l'évangile quand c'est en italique. Mais c'est pour que le français soit plus coulant. Hein? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en latin, à tous ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu lui-même. Voilà, page 43. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Voyez. Et nous avons vu sa gloire comme fils unique du Père. Donc voyez, regardez quand même, quand vous avez le catéchisme, on dit, oui, mais enfin ils inventent un peu, ils transforment, ils disent des choses un peu en plus, mais d'où c'est écrit dans les Écritures? Eh bien là, c'est là, vous voyez, pour le coup, hein, fils unique, hein, non, c'est, oui, mais Trinité, ça y est pas. Eh bien oui, mais c'est parce qu'on a élaboré ce mot pour dire le mystère d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pour le coup, Fils unique, c'est révélé par l'Esprit Saint, par la plume de Saint Jean. Donc, n'en déplaise à ceux qui mettent tout en cause, et bien là, Fils unique, c'est marqué dessus. Voilà. Nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Jean lui a rendu ce témoignage. Il a jeté ce cri. C'est de celui-là que je disais, celui qui doit venir après moi est antérieur à moi. Donc, comme le petit Jean Baptiste, il avait 6 mois quand Jésus a été, conçu. Ça veut dire que Jésus était, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une manière de le dire aussi déjà là. Il est antérieur à moi. Il a existé avant moi. Ah oui, mais il a été conçu 6 mois après. Ah oui, mais s'il est Dieu, il a été... Hop. Page 44. Et tous nous avons vu sa plénitude, grâce sur grâce. Car si la loi nous a été donnée par Moïse, Jean salue bien sûr la révélation première, hein, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Il faut mourir pour voir Dieu. Hein? Ou alors il faut être un ange qui est passé par l'épreuve de l'amour de Dieu. Mais jusqu'à présent, même justement, Élie Enoch, enfin Élie, Enoch, mais surtout Élie, Moïse n'a pas vu Dieu avant de mourir. Hein. Et il n'a pas vu Dieu avant l'ascension. Donc il a dû attendre 1700 ans au limbe des patriarches, avec Abraham, en train de faire attendre, avant que la vision béatifique ne soit possible que lorsque la rédemption était accomplie. Non, il a vu une lumière divine, il a parlé avec Dieu pendant 40 ans au désert, mais cette lumière divine était un reflet de la présence de Dieu. Mais voir Dieu dans sa nature divine, votre esprit ne peut plus quitter cette vision. Donc si vous êtes vivant, oui, mais même c'était une apparence, une pâle apparence, hein. Enfin une belle apparence sans doute, mais voyez-vous, voir Dieu, c'est voir l'essence divine. Et là, votre âme, elle est plongée en Dieu. Donc à la transfiguration, la présence divine dans l'âme de Jésus rejaillit sur son corps qui devient lumineux, et cette lumière est un reflet, pâle reflet, éloigné reflet de l'essence divine, et Pierre, Jacques et Jean sont en extase, tout simplement. Comme Sainte Bernadette, elle voit le corps de Marie sur lequel rejaillit la vision béatifique de la Vierge Marie, et elle part en extase. C'est pour ça que la Vierge Marie peut apparaître sans que cette lumière divine qui vient de sa vision béatifique transparaisse trop, parce que ceux qui la voient seraient subjugués par cette beauté, mais aussi par ce reflet surnaturel. Vous voyez ? Mais très souvent, les voyants de la Vierge Marie sont en extase, ne serait-ce que par la lumière qui vient du corps glorieux de Marie. D'ailleurs, certains, justement, quand la Vierge Marie laisse totalement son corps à cette lumière divine, on dit qu'elle est presque translucide. Elle est très, très lumineuse, vous voyez. Et par contre, rue du Bac, elle n'éblouit pas Sainte Catherine Labourée, et elle la voit avec un corps qui n'est pas lumineux. Et la Vierge Marie va lui parler, elle s'approche d'elle, elle se met à genoux, et en ce moment, déjà depuis plusieurs mois, à la grâce de Dieu, les sœurs laissent le fauteuil où Marie s'est assise à la droite, sur l'autel de droite. Quand vous rentrez dans la chapelle de la rue du Bac, vous avez le grand maître-autel splendide avec la Vierge Marie. Et sur la droite, vous avez l'ancien maître-autel, d'ailleurs, qui était plus petit, en marbre, joli. Et devant, le fauteuil où Marie s'est assise. Donc, il y a un petit cordon, mais on peut le voir à un mètre. Hein, voilà. Et moi, à chaque fois que je vais à la rue du Bac, et j'y suis allé hier... Je tombe en ravissement. Moi qui suis très concret, si vous voulez, qui aime beaucoup les miracles reconnus par la Sainte Église, et ben ça, oui, je me dis, la Vierge Marie s'est assise sur ce fauteuil et c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Dans ce monde de brutes, ça fait une petite consolation. C'est toujours bon à prendre. Donc, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. C'est très fort quand même, hein. Saint Jean, il y a un Marcion qui était un des premiers hérétiques et qui niait déjà la divinité du Christ. À l'époque, il n'y avait pas, pour se laver, on allait dans les bains publics. Tout le monde allait dans les bains publics, sauf des personnes assez riches pour avoir des bains privés dans leur maison, romaine. C'était coûteux de faire chauffer l'eau, et puis il y avait un cérémonial, il y avait l'eau froide, l'eau tiède, l'eau très chaude, bon. Mais tout le monde allait au bain public, sinon les gens ne se seraient pas lavés, ça aurait été une puanteur dans cette société, hein. Donc les bains publics, les ternes étaient des bains publics. Et Saint Jean allait au bain public. Et donc, il y avait un hérétique, je ne sais pas si c'était Marcion. Il croise Marcion et dit « Voici le premier-né de Satan ». Donc le gentil Saint Jean, n'est-ce pas, il avait aussi son franc-parler. Hein. Et à un moment donné, il rencontre aussi un hérétique dans les bains, dans les ternes. Et là, il se lève, et avec ceux qui l'accompagnaient, il dit « Sortons vite, de peur que les ternes ne s'écroulent sur nous. » Et sur lui, surtout. Voilà. Donc ça, ce sont des paroles qu'on attribue au doux Saint Jean. Voilà. Qui, à la fin de sa vie, disait et répétait « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres. » Et « Chers enfants, aimez-vous les uns les autres. » Alors, vous voyez, vous êtes là, il a 95 ans. « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres. » N'empêche qu'il a écrit l'Évangile quand même, hein, 90, 92 ans. Hein. « Aimez-vous les uns les autres. » À un moment, ses disciples étaient là, c'est bien. Vous pouvez un peu développer un peu. Et là, Saint Jean dit « Faites cela et cela suffit. » Donc, page 45, donc on va un peu passer parce que je voulais le faire un peu aussi. Après le préambule de Saint Jean, c'est pas le, je sais plus comment ça s'appelle, le prologue de Saint Jean. Là, donc, le chanoine Weber, un peu concordiste, mais ça me fait très plaisir, et donc, Jérusalem en septembre. De l'an 30, enfin, ou 33, ou 27, suivant les calculs des dates. Jérusalem en septembre, hein, regardez, page 45, c'est très joli. Au jour d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre nommé Zacharie. Donc, si vous vous souvenez de l'histoire sainte, descendant de Aaron, de la tribu de Lévi. Mais les séminaristes et les serviteurs du temple étaient des Lévites, mais ne pouvaient être prêtres que ceux qui descendaient de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Lévi avait eu des enfants, et puis des enfants qui ont eu des enfants, mais il n'y avait que son fils Aaron qui était prêtre et ses descendants. Donc Zacharie était descendant d'Aaron, de la tribu de Lévi, et appartenait à la classe d'Abia. Hein? C'était au sein des descendants d'Aaron, un des pères de famille était Abia. Sa femme, appelée Élisabeth, était comme lui de la descendance d'Aaron. Petit c. L'écrivain sacré fait cette remarque parce que, contrairement à la loi qui régissait les autres tribus, les Lévites avaient le privilège de contracter des alliances dans toutes les tribus d'Israël, de même que tous les Israélites pouvaient épouser des filles de la tribu de Lévi. Ça, c'est très peu connu. Normalement, dans une tribu, on devait se marier entre membres de la tribu de Juda, entre membres de la tribu de Zébulon, entre membres de la tribu de Manassé. Mais les Lévites pouvaient se marier avec d'autres membres de tribus. On croit que Sainte Anne, de la descendance de Lévi, fut demandée en mariage par Saint Joachim de la tribu de Juda. Ah, mais c'est très intéressant, ça veut dire que la Vierge Marie est effectivement de la tribu de Juda. Par son père et par sa mère, Anne, de la tribu de Lévi. Et donc Élisabeth et sa cousine, voilà, par la tribu de Lévi. Nous voyons par là que notre Seigneur était tout à la fois de la race sacerdotale d'Aaron, par Anne, et de la race royale de David, par Joachim, son père. Alors bien sûr, ceci est mis en cause d'une manière violente, par tel ou tel exégétique. Donc, tous deux étaient justes devant Dieu et si fidèles à marcher dans tous les commandements et observances du Seigneur qu'il n'y avait rien à reprendre dans leur vie. C'est beau, hein. Ils n'avaient point de fils, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient avancés en âge. Alors, je connais des couples stériles. Mon Dieu, hein, alors il faut les consoler fréquemment, mais qu'ils sachent que c'est pas une punition divine. Élisabeth et Zacharie étaient des grands saints. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ils étaient des grands saints. L'important, c'est de faire le bien. C'est de faire le bien surnaturel. Alors, tandis que Zacharie, appelé par le tour de sa classe, remplissait devant Dieu les fonctions du sacerdoce, il fut désigné par le sort, hein, au hasard, on tirait les noms de ceux qui allaient offrir le parfum, selon la coutume observée entre les prêtres. Mais cela, je voulais déjà développer en long, en large et en travers, avec Gabriel, donc je passe. Page 48. Donc l'annonce faite à Zacharie par Gabriel est une annonce entre hommes. On va me dire, Gabriel n'a pas de corps, il n'est pas un homme. Oui, mais enfin les anges sont plutôt du genre autoritaire, hein, c'est plutôt masculin. Hein, un peu comme le bon Dieu aussi, vous savez, quand il s'est incarné, il a plutôt choisi un homme. Voilà. Il aurait pu s'incarner en femme et il s'est incarné en homme. Voilà. Et c'est comme ça. Et si on n'est pas content, c'est la même chose. C'est pour ça que les prêtres sont des hommes, parce qu'ils sont, des humanités de surcroît pour Jésus, qui était un homme. Mais si on veut avoir autant de pouvoir que la Vierge Marie, eh bien, on devient religieuse et on devient mère abbesse ou mère Teresa qui, à la fin de sa vie, dirigeait 5000 femmes, n'est-ce pas, et mince. Voilà. Si vous voulez avoir du pouvoir dans la Sainte Église, il n'y a aucun problème. Eh bien là, voyez-vous, Gabriel est très dur avec Zacharie. Zacharie, il a 80 ans, sa femme a 80 ans, et dit, on va pas avoir d'enfant. Et là, Gabriel, il dit, mais c'est pas pour rire hein, que je te dis que tu vas avoir un enfant. Hein? Et c'est ce qui est très très beau, c'est quand il s'énerve, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Hein? » Voilà. Alors sachez que Gabriel est apparu à l'île Bouchard en 1947 auprès de la Vierge Marie. Et les enfants, les quatre enfants, d'ailleurs l'aîné des voyantes est morte il y a quelques mois. Et les enfants avaient à un moment demandé qui il était. Et l'ange qui était magnifique, les anges font des apparences d'emprunt. Donc la plupart du temps, ils sont en toge blanche. Mais là, pour faire plaisir à tout le monde, il avait des ailes. Mais des ailes splendides. Et les enfants disaient que c'était des mini-plumes qui ondulaient. C'était absolument incroyable. Et à un moment, l'ange, qui était toujours tourné vers la Vierge, tourne sa tête d'emprunt. Il n'a pas de tête, il n'a pas d'aile, un ange. Mais il se manifeste comme ça pour montrer qu'ils obéissent à Dieu. Il tourne la tête vers les enfants et il dit « Je suis Gabriel. » Sobre, hein. C'est un archange, hein. C'est pas les grands rigolos non plus. Voilà. Mais c'est magnifique. Voilà. C'est absolument magnifique. Rien que pour ça, on deviendrait catholique. Donc, page 48. L'archange Gabriel, là, par contre, il est dans ses petits souliers parce qu'il va voir l'Immaculée Conception. Donc, l'Immaculée Conception, donc, vous voyez, au fur et à mesure que je lis les évangiles, je fais les points sur les dogmes. Donc, la Vierge Marie, elle est immaculée dans sa conception. Parce que, comme les autres, elle aurait dû mourir et elle aurait dû ne pas avoir la grâce. Sauf que, par anticipation des mérites du Christ, au premier instant de la création de son âme et de l'union avec son corps, Dieu lui donne la participation à sa nature divine qu'est la grâce. Donc, Marie était aussi intègre qu'Adam et Ève. Oui. Donc, elle n'avait pas les dons préternaturels d'Adam et Ève, qui sont la science infuse. Mais par rapport à l'intégrité, c'est-à-dire que l'intelligence et la volonté et le corps sont dans une totale harmonie, elle avait ce don d'intégrité. Est-ce qu'elle avait l'immortalité et l'impassibilité? C'est discuté. Puisque, mais voyez-vous, alors vous avez des différentes visions dont il faut faire très attention, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, et je me laisse un peu séduire. Et c'est une sainte religieuse qui avait stigmatisé, qui a été béatifiée par Saint Jean-Paul II en 2004, et qui a eu des visions, de très belles visions, et dans les années 1820, et la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a même dit une chose qui est assez impressionnante. Elle dit, lors d'un séjour à Jérusalem, la Vierge Marie était très très fatiguée, lasse, épuisée, et on croyait qu'elle allait mourir. Elle se pâmait en permanence, elle s'évanouissait. Et donc on avait préparé un tombeau. Et Anne-Catherine Emmerich dit, il est légitime de penser que le tombeau qui était à Jérusalem était le tombeau de la Vierge, parce qu'on l'a fait pour la Vierge, en effet. Mais elle a repris des forces, et elle est repartie à Éphèse. Et dans les descriptions qu'elle fait, on a retrouvé la maison d'Éphèse. Les archéologues ont trouvé, suivant les visions d'Anne-Catherine Emmerich, la maison d'Éphèse. Et le tombeau de la Vierge Marie à Éphèse. Un tombeau qui avait été préparé, mais qu'elle n'a pas occupé très longtemps. Et alors, elle décrit la Vierge Marie comme sans âge. Elle n'était, on n'arrivait pas, elle n'était pas marquée, sa peau était sans rides, et ses mains étaient belles, très belles. Bon. Mais elle était de plus en plus diaphane. C'est arrivé le moment de son départ. Alors Anne-Catherine Emmerich, et là, comment dire, ça me vexe, elle dit que l'âme de Marie est sortie de son corps. Et qu'ensuite, le bon Dieu l'a remis l'âme dans le corps de Marie quand elle a été déposée dans le tombeau. Et là, alors que tous les apôtres s'étaient réunis à Éphèse pour veiller sur Marie dans une extrême faiblesse. Et donc ils l'ont accompagné au tombeau. Et il y a un épisode qui est gravé sur les murs de Notre-Dame de Paris. Quelqu'un a voulu renverser la litière où était le corps de la Vierge Marie. Et au moment où il met les mains sur la litière pour la pousser, alors qu'elle était portée par des apôtres, ses mains sont coupées et tombent par terre. Et ça, c'est gravé sur Notre-Dame de Paris, côté de la rue du Cloître. Voilà. Et donc, elle est menée au tombeau. Et alors qu'ils partaient, ils entendent des chants angéliques et ils voient Marie vivante, portée par les anges, vers le ciel. Et voyez-vous, mais pour ma part, je reste avec une dévotion particulière à la dormition, et je considère que Marie n'avait pas à mourir, que son âme n'avait pas à sortir de son corps. Voilà. Parce qu'elle est Immaculée Conception. Elle était hors de la loi commune. Toutefois, comme Ève, elle aurait pu pécher. C'est pas parce que vous êtes immaculée conception que vous pouvez pas pécher. Le Christ, lui, ne pouvait pas pécher. Parce que son âme humaine était dans la vision béatifique, dans l'union, dans la personne divine du Verbe. Mais la Vierge Marie n'était pas dans la vision béatifique. Donc, c'est par grâce particulière que Marie n'a pas péché, mais la Vierge Marie a saisi cette grâce en permanence. Adam et Ève auraient pu ne pas pécher. Mais comme ils étaient le premier couple, et qu'ils auraient dû mourir de leur péché, tous leurs enfants sont marqués par leur péché et par la condamnation à mort. Vous voyez ? Il n'y a que le Christ qui arrache la condamnation à mort, comme dit saint Paul, le chirographe, c'est-à-dire, si vous voulez, wanted, n'est-ce pas, enfin, le papier qui dit cet homme est condamné à mort pour telle telle raison. Hein, c'est le parchemin qu'on mettait, à la limite le titre de la croix, c'est comme ce qui était marqué, pourquoi il est condamné à mort. Et le chirographe, c'est ce qui est écrit, a été saisi et déchiré par le Christ. Il est mort à notre place. Et comme il est ressuscité, nous n'avons plus à craindre la mort. Même si, bon, c'est pas très agréable d'avoir un accident, hein, d'être écrasé par un bus, d'avoir une crise cardiaque à 40 ans, ou même de vieillir et d'avoir les artères qui sautent les unes après les autres, et, ou qui fonctionnent pas bien, et voilà. Et de mourir. C'est quelque chose qui nous fait horreur, parce que notre âme a une aspiration à l'immortalité, c'est un esprit. Donc elle n'accepte pas la déchéance du corps. Et elle a raison. Ensuite, elle peut l'offrir. Et c'est méritoire. D'abandonner son corps à la mort, au moment où le bon Dieu nous appelle, est une confiance dans la résurrection. On le laisse parce qu'on sait qu'on le retrouvera. Donc c'est très surnaturel d'abandonner son corps en petits morceaux, voilà. Et c'est petit à petit, on peut plus marcher, on peut plus courir, on peut plus marcher, monter des escaliers 4x4, enfin voilà. L'annonciation, c'est l'archange Gabriel donc qui va porter cette annonce à Marie, mais on va un peu plus vite. Mais je peux pas m'en empêcher, donc je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, page 48. Marie, à ces paroles, fut troublée. Elle sait que les anges existent, tout ça, mais enfin, là, en plus, il lui fait des louanges. Donc, Elle se demandait en elle-même ce que pouvait être une telle salutation. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Ne craignez pas, Marie, reprit l'ange, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein. Et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Comment comprendre si on n'a pas l'histoire sainte? Eh bien, on peut. Jésus est le Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu. On n'a pas à connaître toute la Sainte Écriture pour savoir que Dieu nous aime. Mais puisque nous sommes dans un catéchisme de persévérance pour adultes, ou un catéchuménat, eh bien, il est bon de savoir pourquoi Gabriel lui dit qu'il aura le trône de David, son père. Donc il descend de David. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. C'est merveilleux. Vous voyez, c'est... Mais donc... Et son règne sera sans fin. Donc tous les juifs doivent être baptisés. Et un jour, il y avait un béninois, un prêtre béninois qui est à Saint-Pierre de Chaillot. Il y a une demoiselle qui rentre dans Chaillot, qui visite tout ça. Elle parle avec le prêtre. Et vous voyez, voilà, vive Dieu, vive Jésus, tout ça. Oui. Vous priez, oui. Mais je suis juive. Et là, le prêtre béninois... qui n'a pas les complexes européens, dit « Oh, mais c'est fantastique, vous êtes juive, alors vous êtes donc baptisée, vous êtes chrétienne. » Non, je suis juive, je suis juive, voilà. Mais tous les juifs doivent être heureux d'avoir leur Messie, c'est votre Messie, vous avez reçu le baptême. Non, c'est pas que je veux. Voilà, mais lui, il était dans une limpidité d'âme. Ah ben oui, mais les juifs... doivent être les premiers à être baptisés. Ben oui. Hein? Le trône de David, son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et qui est Jacob? C'est quand même d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, c'est celui qui insiste sur la bénédiction divine et l'ange qui, après lui avoir coupé un nerf pour l'abattre au sol, enfin pour le mettre à genoux, dit « Eh bien, je vais te bénir, oui, tu as bien insisté. Et maintenant, tu t'appelleras Israël. » Eh bien, ça me fait une belle jambe, hein, dit Jacob, qui boitera jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il se souviendra du combat avec l'ange. Hein, ça l'amuse à moitié, mais voyez-vous, c'est un homme de foi profonde, Jacob. Et ce qui lui arrive, ça a beau être surnaturel, eh bien, il a boité toute sa vie. Il s'est vraiment battu avec un ange. Et c'est magnifique. Israël, fort face à Dieu. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Donc, tous les Juifs sont appelés à reconnaître Jésus comme leur roi. Voilà. Et un prêtre qui ne propose pas à un Juif d'être baptisé est un renégat. Voilà. Il n'accomplit pas sa mission d'annoncer la bonne nouvelle. Mais, dit Marie, puisque j'ai résolu de rester vierge, oh, quelle interprétation de la part du chanoine Weber, mais c'est très joli. Comment cela s'accomplira-t-il? Petit a. Quelle est la vraie traduction de Saint Luc, chapitre 1? Eh bien, c'est « Puisque je ne connais point d'homme ». Et là, il y a une interprétation de chanoine Weber, qui est un saint homme catholique. « J'ai résolu de rester vierge ». Parce que, comment ça va se passer puisque je n'ai pas de relation avec un homme?
Et ça ne changera pas.
Voilà, et ça ne changera pas. C'est ne pas connaître, c'est une manière élégante de dire qu'on n'a pas de commerce avec un homme.